voyage.
Bien-être et santé.
Musique.
Mode et beauté.
Trucs et astuces. Dans
100% Lifestyle.
Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir mon très cher Yann, vous êtes bien sur RDL, le 103.5 FM, et bien entendu c'est jeudi soir, et le jeudi soir de 19h à 20h, le rendez-vous c'est 100% Lifestyle. Bonsoir mon très cher Yann, comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine?
Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, merci beaucoup, excellente semaine, et en plus c'est jeudi soir, j'étais très impatient comme chaque semaine, très heureux de te retrouver, tout comme les auditeurs, pour une heure de 100% Lifestyle, et alors une heure où on va apprendre plein de choses sur plein de thèmes différents, c'est ça que j'aime beaucoup aussi.
Ah, comme toujours dans 100% Lifestyle, c'est ce qui me ravit toujours dans cette émission et ravit de l'animer, mais surtout le plus important c'est de l'animer avec toi.
Oh mais avec toi aussi, on s'entend bien, on est très complices, on rigole bien, on apprend beaucoup de choses et en plus on se détend aussi, c'est ça qui est bien dans 100% Lifestyle.
Ah bah c'est jeudi, ça y est, la semaine est quasi finie, on peut dire que le cerveau peut se mettre quasiment en mode week-end,
presque,
encore demain,
presque.
Mais bon, allez, et une pensée quand même pour tous ceux qui travaillent le samedi et le dimanche.
Exactement, parce que oui, il y en a, il ne faut pas les oublier pour
exactement.
Autant.
Allez, si on se mettait pour le sommaire.
Eh bien, c'est parti, dis-nous tout Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Eh bien, écoute, on va commencer avec En route pour l'aventure, et ce soir, tu nous parles des traditions dans les îles d'outre-mer françaises dont on parle peu.
Et puis ensuite, tu poursuivras avec ta minute soignante aujourd'hui. Un cerveau en pleine santé, c'est ce qu'on se souhaite à quelques jours de la fin, d'ailleurs, des résolutions et des bonnes années de 2025. Ce sera dans un instant dans ta minute soignante.
Bah, comme tu me dis que ton cerveau il est toujours en pause à partir de 19h30 jusqu'à 20h, je me dis qu'avec ces conseils-là, peut-être que je vais réussir à te tenir pendant une heure.
C'est pas faux, tu fais très très bien d'essayer, on va voir ça dans un instant.
On continuera bien entendu avec Chanson Story, et ce soir tu nous parles de Maldon, la musique dans la peau, c'est Zouk Machine, et tout cela est sorti en 1990, mais restez avec nous pour découvrir les dessous de cette musique, car croyez-moi, vous allez être impressionnés.
Oh oui, je te le confirme. Et puis dans quelques instants après, ce sera au tour de la question des auditeurs. Mais pourquoi les lettres de l'ordinateur sont-elles placées ainsi? C'est une bonne question et pourtant je suis certain qu'on ne se l'est jamais posée. Et on va avoir la réponse grâce à toi.
Mystère et boule de gomme, tout cela depuis le clavier.
Exactement. Et puis on terminera avec la routine ménage et pas la routine message, comme j'allais le dire. La routine ménage, ça commence bien dans le cadre de ton truc et astuce.
Et bien entendu, le célèbre piégeons-nous, que serait 100% Lifestyle sans le piégeons-nous? Sûrement pas grand-chose, hein?
Oh,
qu'en dis-tu?
Oui. Oh oui, je sais que tu aimes bien me piéger comme ça. Je sais que tu as attendu toute la semaine pour ça, je sais.
J'ai préparé ma question minutieusement. J'ai mis le point d'interrogation au bon endroit et tout. J'ai hâte. Franchement, ça va être du grand art encore ce soir.
Heureusement, elle va attendre une heure avant de me la poser, sa question.
Allez, sans plus attendre l'heure, hein, il faut bien commencer par quelque chose. En route pour l'aventure?
Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Écoute, on parle des traditions dans les îles d'outre-mer françaises dont on parle peu.
Exactement, il faut dire que la France, c'est la deuxième puissance maritime au monde, hein, derrière les États-Unis, et elle comporte 12 territoires répartis dans tous les océans du monde. Alors vous connaissez très certainement les plus connus, hein, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, il y a même Mayotte, dont on a hélas beaucoup parlé hein, ces derniers temps, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Mais connaissez-vous les autres, dont on parle assez peu? Est-ce que tu connais par exemple Anne-Claire, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon?
Saint-Pierre-et-Miquelon, oui.
Oui.
J'aime bien. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'un jour j'aille faire un tour. Je sais pas pourquoi, ça me tente.
Tu sais où Saint-Pierre-et-Miquelon dans le monde?
C'est dans le Nord-Nord. crois.
Ah, c'est dans le nord-nord, mais non. Dans le nord où précisément? Dans le nord-est, dans le nord-ouest, à côté de quel pays?
Bah, écoute, c'est dans le nord, c'est déjà pas mal.
Ah, hein. Alors, en fait, tu veux aller dans un endroit dont tu sais pas où
c'est. Mais parce que je sais pas quand je vois, enfin quand on regarde la météo et qu'ils présentent les pays d'outre-mer, je sais pas, la forme de l'île m'a toujours paru intéressante. Donc, c'est pour ça.
Je te confirme et on va en savoir plus dans quelques instants puisque je vous propose là maintenant un petit tour d'horizon sur ces territoires. Alors, certes lointains, mais avec des traditions bien de chez eux.
J'adore les traditions, si on commençait par Saint-Barthélemy.
Oh bah avec grand plaisir. Alors pour la situer, hein, c'est une île qui se situe à 227 km au nord de la Guadeloupe. Elle est accessible depuis la Guadeloupe en 50 minutes hein, par avion. Alors pour la petite histoire, c'est la France qui colonise l'île dès 1648, hein, mais Louis XVI l'échangera à la Suède en 1784. Et oui, Saint-Barthélemy, c'était suédois pendant un siècle jusqu'à son retour en France. C'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Gustavia. Je crois que c'est la ville principale, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est nommé en l'honneur du roi suédois Gustave III. Et aujourd'hui, c'est en France. Et oui, Saint-Barthélemy, c'était une commune hein, de Guadeloupe de 1946 à 2007. C'est devenu une collectivité d'outre-mer. Avant, ça appartenait à la Guadeloupe. Hein. En fait. Alors concernant les traditions de l'île, ben forcément entre aussi entre françaises et suédoises, avec des habitations à la chaux, avec maison principale, donc le séjour et la chambre hein, du coup, et les dépendances aussi pour la cuisine, mais il y a aussi l'architecture nordique et bien sûr la modernisation de l'île avec des maisons modernes, des villas touristiques par excellence et aussi toutes les fêtes et les festivals un petit peu hein, quelques exemples pêle-mêle sur l'île de Saint-Barthélemy. Et ben il y a des événements maritimes hein, comme le Bouquet Regatta, c'est fin mars avec un rassemblement de voiliers hein, du monde entier. Ça peut aussi être des événements culturels parce qu'il y a aussi un festival du livre du film Caraïbes en avril. À Colmar il y a un festival du livre, il y a aussi un festival du film. Mais ben, à Saint-Barthélemy également. Il y a le Saint-Barth Film Festival au mois de mai et il y a même du sport avec ce Gustavia Lopet. C'est un marathon suédois, eh oui, de 10 à 12 km. Ça peut pas être 42 km et quel parce que l'île est trop petite pour ça.
C'est chouette parce que en plus, enfin, autant on a du coup colonisé, du coup on est arrivé après les Suédois, mais en fait, comme on a quand même beaucoup gardé, je trouve ça chouette. C'est bien pour l'histoire de l'île et pour les habitants aussi.
Exactement. En plus, la France était avant et même après la Suède, donc on a nous cette particularité-là que n'ont peut-être pas forcément les Suédois, mais je ne savais pas du tout que la Suède avait cette île de Saint-Barthélemy. Bon, c'était au 18e siècle hein, à peu près, mais quand même. Et aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ça qu'il y a encore beaucoup de traditions, comme tu le disais, françaises, mais aussi suédoises qui cohabitent. Et c'est ça qui est beau, effectivement.
Et du coup, est-ce qu'on reste dans l'océan Atlantique ou pas?
Oh oui, avec l'île voisine. Comment elle s'appelle cette île?
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Alors ça, ce sera après, ça quand même. Parce que
pas tout de suite?
Non, pas tout de suite. Je sais que tu es impatiente, mais tu sais, on a toute une heure ensemble.
Bon, avant, on va à Saint-Martin. Alors.
Effectivement, bon, une île qui est à côté de Saint-Barthélemy. Alors c'est 10 minutes de vol hein, en avion entre les deux. Hein. C'est vraiment pas loin hein, pour le coup. Saint-Martin se divise aussi en deux, figure-toi, depuis 1648 et encore. Aujourd'hui, c'est la particularité, mais oui, t'as une partie française au nord de l'île de Saint-Martin, ça représente 40 000 habitants, et au sud, tu as la partie néerlandaise.
Ah d'accord.
Et oui, ce qui fait qu'aux Pays-Bas, ils appellent pas l'île Saint-Martin, mais Sint-Maarten.
Ah,
c'est
ouais.
La même chose. Et oui. Il existe même une frontière terrestre, hein, d'ailleurs, entre les deux, t'as un obélisque, carrément, et oui, qui envoie la frontière entre la France et les Pays-Bas. L'île fait 90 km² en tout, dont 53 km² qui appartient à la France, et oui, légèrement, un peu plus de la moitié. L'île est influencée par des cultures nord-américaines et les îles anglophones voisines, puisqu'il y a les îles vierges britanniques, les îles vierges américaines. Tu sais, ces îles dont on connaît à peine l'existence, hein, qu'on sait même pas où mettre dans la carte, bah voilà, c'est celle-là. Alors, faut dire que, à Saint-Martin, l'eau, malheureusement, se fait assez rare sur cette île, hein. Les autorités françaises, ouais, et néerlandaises ont construit même une usine de dessalement de l'eau de mer dans leur territoire, pour régler ce problème. Mais bon. Comme à Saint-Barthélemy hein, et dans toutes les Caraïbes, eh ben, qu'est-ce qui est en fêté en grande pompe à Saint-Martin? La musique tropicale.
Ah,
eh ben oui.
Bien sûr.
Eh oui, mais pas que, parce que t'as aussi la musique électronique, avec un festival, le SXM Festival, depuis 2016. Hein, t'as une trentaine d'artistes qui se succèdent pendant 5 jours. Ce sera cette année entre le 12 et le 16 mars 2025.
Ah, sais ce que je fais au mois de mars.
Ah, imagine sur du sable blanc en plus. Ça fait rêver, je te jure, ça fait rêver. Bon, côté architecture, ce sont des maisons de toutes les couleurs. C'est très très riche. Et aussi, si jamais tu aimes le domino, eh ben faut aller à Saint-Martin, c'est le loisir incontournable là-bas. Eh ouais.
Ah ouais, avec sur les tables en bois et tout ça,
ouais,
là,
ça.
Avec
ouais,
les
ouais.
petits jeux. Ah oui, oui, oui.
Eh oui.
D'accord, ok. Eh ben, très
alors là, maintenant, on peut aller là où tu as envie d'aller.
Ouais, mais avant j'ai une
Dis-moi.
Question. J'ai une question. Tu disais tout à l'heure 10 minutes d'avion pour y aller. Mais est-ce qu'on peut rejoindre par la mer?
Oui, 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 on peut. Après, je pense que c'est quand même plus rapide par l'avion.
Oui, hein, mais je voulais quand même être sûr.
Hein. Oui, oui. C'est ah, jamais. Pourquoi l'avion, c'est pas ton truc?
Bah, si, l'avion, c'est mon truc, mais bon, tant qu'à faire, autant être dans les îles, autant prendre le bateau, j'ai envie de dire.
Bah
c'est
oui, t'as ça. Bien raison. Un petit peu d'exotisme, quand même.
Voilà. Et pour continuer dans l'exotisme, on va enfin à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Alors, où ça se situe, Saint-Pierre-et-Miquelon? Parce qu'au fond, on sait toujours pas. Hein,
et bah, moi, je t'écoute, tu sais ma douétude pour... douétude, encore un mot inventé par Anne-Claire, hein, bien sûr.
Oui, oui, pour le petit Anne-Claire sort demain, hein, d'ailleurs,
voilà,
hein, dans toutes les librairies.
Il y a le petit Robert, il y a le petit Yann et il y a le petit Anne-Claire.
C'est ça. Étrangement, le petit Anne-Claire est beaucoup plus illustré que le petit Yann. Hein,
Allez, alors, dis-nous tout.
Je vais te dire où ça se situe. Ça se situe à plus de 4300 kilomètres de Paris. Saint-Pierre-et-Miquelon, ça compte 6300 habitants. Et en fait, ça se trouve sous Terre-Neuve, face au Canada,
ah,
dans l'océan Atlantique.
C'est tout à fait pour moi.
Exactement.
Moi qui aime le froid, on est bon.
Exactement. Alors tu vas me dire, mais pourquoi ça s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon?
Oui.
Eh bien parce qu'il y a l'île de Saint-Pierre, la plus petite mais la plus peuplée. Hein, attention, 86% des habitants hein, de Saint-Pierre-et-Miquelon quand même. Et t'as les trois presqu'îles qui s'appellent Miquelon, Saint-Pierre et Miquelon.
Donc moi je vais aller habiter à Miquelon.
Ah là où il n'y a personne quoi.
Oui.
Ah bah écoute, hein. Si tu veux, mais moi je vais plutôt à Saint-Pierre, hein, je préfère, hein, là où il y a des habitants. Alors l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut le dire, a été très marquée hein, par la Prohibition. Elle a fait fortune à cette époque dans les années 20 et les années 1930 parce que cela permettait le trafic d'alcool vers cette île, hein, le transport jusqu'à l'importation et l'exportation d'alcool. Ben oui, c'était interdit aux États-Unis à cette époque. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, terre française, n'appliquait pas cette loi et en a beaucoup profité. Mais ce qui a permis de faire vivre cette île, et encore aujourd'hui, eh ben, c'est la pêche. Eh ouais, l'île a beaucoup vécu de la pêche. Et alors, les doris, c'était des embarcations traditionnelles, mais oui, de l'île. Et pour cela, attention, il en reste qu'une douzaine.
Alors moi, doris, aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Doris, c'est le monde de Nemo, c'est le petit poisson bleu.
Oui, mais là, c'est normal. C'est un dory des doris, D-O-R-I-S. Et c'est au pluriel, sinon c'est D-O-R-I. Je crois. Mais c'est sur l'eau, c'est pas sous l'eau. Tu vois, il y a tellement de Nemo à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ça s'appelle comme ça dans le monde de Nemo parce qu'ils se sont peut-être inspirés des doris de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ou une terre française, je sais pas. Moi, je dis faut vérifier. Bah, Dory, je crois que c'est un prénom quand même qui est pas mal donné aussi aux États-Unis. Hein.
C'est pas faux.
Donc oui, hein, on va dire c'est
bon,
plutôt ça.
Voilà.
Hein. D'accord. En tout cas,
nous sommes un petit peu égarés.
Le doris, en tout cas, ça a été intégré à la liste ministérielle de la culture, donc hein, du patrimoine culturel immatériel, en novembre 2024. C'est très récent et c'est reconnu au niveau national. Et puis, dernière tradition de Saint-Pierre-et-Miquelon, eh ben, ce sont les tambours. Mais pas les tambours instruments de musique, non. C'est les tambours à l'entrée des maisons, de bois coloré. En fait, ce sont des sas anti-intempéries hein, qui permettent à la neige ou au vent de ne pas entrer dans la maison. Ça s'appelle des tambours là-bas et il en existe strictement partout sur l'île, mais nulle part ailleurs en France, uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Bah, on devrait peut-être s'en inspirer hein, parce que ça doit être quand même drôlement pratique. Et puis peut-être que même tu peux peut-être laisser tes chaussures à l'entrée pour pas salir la maison quand tu rentres.
T'as tout compris.
Ah, ça fait partie de la routine ménage, ça.
Ouais, je sens que ça, tu vas aimer. On va peut-être en parler dans ta routine ménage
ça,
en quelques instants,
ça.
Mais ouais. Je sens qu'on va devoir appeler un architecte pour ta maison, toi. Hein.
Déjà, il faudra avoir une maison, mais...
Ça, accessoirement.
Je peux peut-être le faire à l'entrée de l'appartement, qui sait.
Eh, qui sait. Bon, je crois qu'il faut juste quand même que tu aies l'accord de tous les locataires ou les propriétaires même.
Ah, oh, je me débrouillerai.
Ouais, t'as raison.
Bon,
t'as
avant d'en arriver à faire parler des architectes, on va peut-être aller faire un petit tour à Wallis et Futuna quand il tue.
Ah bah oui, et puis alors pour le coup, ça se situe à l'autre bout du monde. Hein, par rapport à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en Océanie, hein, dans l'océan Pacifique. C'est l'île la plus éloignée de l'Hexagone. 11 558 habitants seulement, répartis sur deux îles, Wallis et Futuna. Ouais, bah ouais, c'est étrange hein, quand même.
Écoute, Wallis et Futuna.
Exactement.
Les îles sont reliées entre elles ou pas du tout?
Non, pas du tout, mais elles sont assez proches. Hein,
d'accord.
Quand même, elles sont assez
aussi
proches,
bien par avion que par bateau,
ouais,
je suppose.
Ouais, c'est ça, oui, il me semble. C'est assez proche géographiquement. Par contre, attention, même s'il s'agit d'une collectivité d'outre-mer, et pour cause, il y a un président pour les deux îles. Mais attention, t'as aussi pas mal de distinctions, puisque tu as des rois coutumiers. T'en as un pour Wallis, t'en as même deux pour Futuna, ils sont reconnus par l'État français et ils exercent un pouvoir sur ce qui concerne la coutume. Et la coutume, parlons-en, elle est appelée localement Agaï Fenua. Et elle représente tout, hein, les danses, la langue, la musique, l'artisanat pour certains, mais aussi tout ce qui a trait aux traditions. Et l'une d'elles est emblématique là-bas, c'est la cérémonie du kava.
C'est surtout, donc en fait, il a les deux rois d'un côté et le roi de l'autre, ils ont surtout du coup un pouvoir sur tout ce qui est culturel et traditionnel.
Voilà, essentiellement, mais le roi coutumier de Wallis à Wallis et les deux rois coutumiers de Futuna uniquement pour Futuna. Après, oui, ils ont, c'est comme, tu sais, la Nouvelle-Calédonie où t'as une partie régie par la France, j'allais dire politiquement avec les lois, mais t'as aussi un système un peu à eux.
Il y a aussi, au point de vue des lois.
Pour résumer,
et tout ça.
Je résume d'accord. Presque en caricaturant, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et la cérémonie du kava, c'est en présence du roi de Wallis, sur l'île de Wallis, et ça représente le partage du breuvage à base de la plante de kava, d'où le nom. Et c'est un rituel de préparation de ce breuvage qui est très silencieux. Uniquement le maître de cérémonie qui parle en donnant les directives, sinon tu n'entends strictement rien. Et c'est une cérémonie qui est différente autant sur l'île de Wallis que sur l'île de Futuna. C'est un peu l'équivalent du lever des couleurs en métropole, enfin les drapeaux, etc. Enfin, c'est vraiment très très spécifique de Wallis et Futuna.
Et tu parlais de breuvage. Est-ce que tu sais ce qu'on y boit ou
pas exactement? C'est un mélange. Hein.
D'accord. C'est plusieurs.
En quelque sorte, oui, mais c'est vraiment très très coutumier. C'est vraiment la tradition là-bas, pour le coup, on est définitivement dans du 100% lifestyle.
En tout cas, c'est très intriguant, ça me plaît, j'aime bien.
Ah bah. Encore une autre destination à aller, mais par contre, tu dois avoir 24 heures d'avion là, pour y aller.
Bah, hein. Mes mères, elles mettraient ses bas de contention encore une fois.
Hein. Bah, écoute, fais-toi plaisir. Alors, on termine par un plus surprenant.
Oui, on allait terminer mais alors là, je ne connais pas du tout, hein, me demande pas la capitale, à mon avis. De toute façon, bon, il n'y en a peut-être pas, mais ça s'appelle les Tafts. T2AF.
Oui, exactement. Alors, je te rassure, effectivement, il n'y a pas de capitale. Et pour cause, les TAF, ce sont les terres australes et antarctiques françaises.
Oh ouais.
Parce que oui, ça existe. En gros, pour résumer, elles se répartissent en 5 districts, principalement dans 3 zones géographiques. Tu as donc autour de Madagascar, hein, en Afrique, dans l'océan Indien, avec les îles Éparses. Elles portent son nom parce que tu as 5 îles inhabitées, situées dans une très vaste zone.
Ah, encore des îles inhabitées pour moi.
Exactement. Entre Madagascar et l'Antarctique, tu as aussi les terres australes, qui comprennent, pour les plus connus, les îles Crozet, Kerguelen et plein d'autres, mais qui sont très éloignées géographiquement. C'est immense, hein, vraiment, hein, au niveau
Australes,
de la superficie.
Australes, parce qu'on doit des horaires boréales et tout ça, ou pas du
Oui, un peu, oui. C'est passé plus de l'Antarctique, donc oui, ça a aussi un petit peu ça, mais pas sur les îles Crozet et Kerguelen, mais peut-être même un petit peu plus au sud. Et puis, t'as l'Antarctique, hein, avec la Terre Adélie et sa base scientifique française. Il y a plus de manchots que d'humains là-bas.
Oui, mais je crois que c'est divisé en plusieurs pays, je crois, la Terre là-bas, c'est ça? Il y a plusieurs pays
représentés. Oui, effectivement. Et tu as une partie française, hein, du coup, avec la Terre Adélie, effectivement. Puis le reste, c'est la banquise, hein, forcément. Alors, ces terres-là, australes et antarctiques françaises, ont été découvertes à partir du 15e siècle par les Portugais, puis les autres puissances européennes, dont la France. Elles étaient inhabitées, elles le sont pour la plupart encore aujourd'hui. Il existe un préfet tout de même, un administrateur supérieur de ces terres australes et antarctiques françaises, mais basé à La Réunion. Eh ouais, sur l'île de La Réunion, il assure les missions de souveraineté, de soutien à la recherche scientifique, de préservation de la biodiversité et de la logistique, parce qu'il en faut tellement que c'est étendu. Alors dis-moi, Anne-Claire, sur quelle île d'outre-mer citée tu aimerais bien visiter ?
Bah écoute, en premier, comme je l'ai dit, hein, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, j'irai du coup bien faire un tour dans les TAF. Moi, ça me plaît bien.
Il fait froid par contre.
Hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Tu sais que je préfère le froid.
Écoute.
Wallis et Futuna, ensuite, parce que la cérémonie que tu m'as parlé m'intrigue. J'aime bien. Et on terminera, comme c'est pas loin l'un de l'autre que tu as dit tout à l'heure, et bah Saint-Martin-Saint-Barthélemy.
Ah, donc là, tu vas toutes les visiter.
Bah écoute, ça peut faire un petit road trip. En 3 semaines, j'ai le temps, non?
En 3 ans plutôt, parce que tu vas faire tout le beau, tu vas faire le monde entier là. Hein. Je te rappelle.
Et j'ai quand même une question, une dernière, par rapport au TAF, etc. Tu disais tout à l'heure, ça a été découvert par les Portugais. Grâce à moi, ils ont gardé une petite partie de terre vu qu'ils ont découvert.
Alors à ma connaissance, oui. Après, voilà, les Portugais ont été un temps le pays qui avait le plus de superficie au monde, hein, avec toutes les colonies et puis toutes les, le Brésil, hein, notamment. Voilà, mais pendant très longtemps, après, les Français, les Anglais, etc., ont pris le dessus.
Ou ont investi les lieux.
Ouais, c'est ça, beaucoup moins que les Portugais. Alors, je vous propose de faire une petite pause et puis comme ça, on va pouvoir se reposer un petit peu le cerveau parce que c'est ce dont il est question avec ta Minute Soignant dans un instant. Un cerveau en pleine santé, c'est ce que l'on se souhaite. Juste après ça, Blackbird, Celestial et Devon Graves. À tout de suite sur RDL. Restez bien dans 100% Lifestyle. C'était Blackbird, Celeste et Devon Graves, un titre récent hein, du coup, qui a permis de faire une pause. Merci beaucoup d'être toujours avec nous, toujours avec Anne-Claire bien sûr, pour ta célèbre Minute Soignante. C'est vrai qu'il est presque 19h30, tu as encore 7 ou 8 minutes avant que mon cerveau ne se déconnecte comme chaque semaine entre 19h30 et 20h. On va voir si c'est le cas aujourd'hui, voici ta Minute Soignante. Et aujourd'hui, tu nous parles de ce cerveau que nous avons tous, j'espère, en pleine santé.
Eh oui, bienvenue dans la Minute Soignante et ce soir, nous partons sur le bien-être du cerveau. On va plonger dans le monde fascinant de l'alimentation et des habitudes qui aident nos neurones à rester en pleine forme. Prêt à découvrir comment garder votre esprit vif et alerte sans trop de stress ?
Alors, alimentation équilibrée, c'est le pilier du cerveau.
Tout commence dans l'assiette, comme bien souvent. Une alimentation équilibrée est essentielle. Votre cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. Privilégiez les sucres complexes comme ceux des céréales complètes, des légumineuses et des fruits entiers. Évitez les sucres simples, des bonbons et des gâteaux qui ne font que vous donner un coup de fouet. Les protéines sont également cruciales pour fabriquer les neurotransmetteurs qui aident à transmettre les messages entre nos neurones. On pense souvent à la viande et au poisson, mais n'oubliez pas les œufs, les produits laitiers et même les légumineuses et céréales pour les protéines végétales. À savoir que le cerveau est le plus gras des organes et le plus riche consommateur de minéraux. Il a donc besoin de lipides pour fonctionner. Les oméga-3 sont particulièrement bénéfiques. Vous pouvez les retrouver dans le poisson gras, comme le saumon et les sardines, mais aussi dans les graines de lin et les noix. N'oubliez pas le magnésium qui aide la connexion neuronale et peut réduire le stress. N'oubliez pas aussi le fer et le zinc ainsi que le cuivre qui sont importants pour la santé cérébrale. Vous les trouvez dans les fruits de mer, la viande, les noix et même dans le chocolat noir. On évite le vieillissement de nos cellules avec des antioxydants. Pensez aux fruits et légumes colorés qui contiennent les vitamines C et E ainsi qu'à des composés comme les flavonoïdes. Une consommation quotidienne de fruits et légumes peut réduire le risque de démence de près de 30%, messieurs, dames.
Que 24 heures, c'est trop court dans ma journée. Et mon bonheur, oh, je cours après. Je bouge mon je conduis la voiture. La route à prendre, je n'en suis pas sûre. Après le bip, on se parle et on se fait du mal. On ne pas se comprendre. Je mets la clé, je déploie mes ailes. Sous mes pieds, c'est chaud. Je vais vite, je m'entraîne.
Et après, je vais vite de Laurie, on part vite vers la vie quotidienne pour stimuler notre cerveau, Anne-Claire.
Tout à fait, c'est pour ça que je vous ai mis Laurie, parce que Laurie va vite et stimuler le cerveau, ça va vite. Maintenant, passons à des activités qui aident à garder le cerveau en forme. Oui, oui, il y en a. Ne vous enfermez pas dans la routine. Apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un sport ou une langue, stimule la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Et croyez-moi, on en a besoin.
Hein. Oh oui.
Privilégiez également le contact social. Partagez vos expériences en rejoignant des clubs ou des forums pour échanger sur vos passions. Que vous aimez la belote, les mots croisés, les quiz télé, variez les plaisirs, cela renforce les différentes mémoires sémantiques, spatiales, visuelles et tant d'autres. Ensuite, il y a l'exercice physique, surtout à l'extérieur, qui est génial pour le cerveau. La marche, par exemple, aide à augmenter l'oxygénation et favorise la création de nouvelles cellules dans l'hippocampe, essentielles pour la mémoire. On peut faire de la méditation qui a beaucoup de bénéfices car elle peut modifier la structure de votre cerveau à long terme et aider à retarder les troubles cognitifs. En plus, elle aide à gérer le stress et à réguler vos émotions.
Et puis, il faut penser aussi à se laisser du temps libre, bien sûr.
Tout à fait. Parfois, faire une pause et laisser votre esprit vagabonder peut aider à résoudre des problèmes. Ces moments de rêverie permettent à votre cerveau de créer des connexions inattendues. Que ce soit en regardant par la fenêtre ou sous la douche, laissez-vous du temps pour ne rien faire.
Alors dis-nous tout en conclusion, comment peut-on ainsi avoir un cerveau en pleine santé ?
Eh bien écoute, je crois que j'ai tout dit, hein. Maintenant tu as un bon bagage d'astuces pour prendre soin de ton cerveau, mon très cher Yann, et vous aussi mes auditeurs. Alimentation, activité physique, stimulation intellectuelle et moments de partage, tout cela contribue à garder votre esprit en pleine forme. Alors, à vos fourchettes, sortez vos baskets et n'oubliez pas de partager ces conseils avec vos amis. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la Minute Soignant.
Merci beaucoup Anne-Claire pour avoir parlé de ce cerveau en bonne santé. Et puis la preuve avec ce cerveau en bonne santé, j'ai eu le temps aussi pendant la musique d'essayer de vérifier, tu sais, par rapport au Portugal et l'Antarctique.
Ah oui.
Il y a donc des territoires qui sont revendiqués en Antarctique, même si bon, c'est pas non plus, il va pas y avoir de guerre pour ça, bien au contraire, attention. Il y a le Royaume-Uni, l'Argentine, le Chili, la Norvège, l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas le Portugal sur ça, donc voilà, affaire à suivre, mais il fut un temps, mais pas actuellement pour l'Antarctique. En tout cas, merci beaucoup Anne-Claire pour ta minute soignante.
Ça nous fait encore des nouvelles connexions dans le cerveau avec tout ça, avec ton en route pour l'aventure qui nous informe encore et toujours.
En temps réel, la preuve que nous sommes en direct sur RDL, le 103.5 FM.
Mais pour garder un esprit en forme et un cerveau en pleine santé, la musique c'est très important. Alors moi je dis qu'il faut continuer avec Chanson Story. Et ce soir, à l'honneur, Maldon, La musique dans la peau, le Zouk Machine, tout cela sorti en 1990. Je crois que j'ai beaucoup dansé sur ce titre.
Oh bah je crois que tu vas encore bien danser hein, dans quelques instants, puisque à partir du 1er mai 1990, un tube du groupe guadeloupéen Zouk Machine, on parlait des Outre-mer, on n'a pas parlé de la Guadeloupe tout à l'heure, il est temps, ensoleille nos vies avec un tube, ça. Ça reste 9 semaines numéro 1 du top 50 pour cette hymne contre les machos. Et il faut savoir que la création de ce titre, Maldon, ça a été fait par un homme. Eh oui, le frère de la chanteuse principale du groupe qui a ainsi créé cette chanson. Alors, le frère de la chanteuse principale, mais qui était la chanteuse principale, Anne-Claire? Eh bien, elle s'appelle Christiane Obidol et elle rêve de devenir chanteuse. Elle quitte sa Guadeloupe natale pour les États-Unis, mais elle finit par y revenir 8 mois plus tard parce qu'elle accepte une proposition qui va changer sa vie. Et c'est une proposition de son frère qui lui propose de participer à un groupe de musique féminin. Et ça commence dès 1989 avec un premier succès local, juste là pour le plaisir, histoire d'oublier la grisaille et le froid hivernal, un petit zouk. Vous avez très certainement reconnu Sauvé en mou, oui, 1989, un an seulement avant Maldon, la musique dans la peau. Alors bon, forcément, après ce Sauvé en mou qui a un petit succès d'estime localement, faut faire un deuxième album, le deuxième album qui est en préparation. Mais une chanson, Maldon, a été écrite en créole, mais attention, on a modifié des mots en créole avec des mots bien français comme nettoyer, astiquer, etc. Alors, ce sont des verbes qui veulent dire la même chose, tant en créole qu'en français, ce qui permet en réalité d'exporter tout simplement la chanson, y compris dans l'Hexagone. Et heureusement, ils ont bien fait, parce que d'abord, 100 000 exemplaires ont été vendus rien qu'aux Antilles, et alors quand la chanson débarque en métropole, je ne vous raconte pas, après un petit temps, un raz-de-marée arrive. 1 million de singles vendus, disques de platine en France, disques d'or en Belgique. Maldon, c'est le titre zouk le plus vendu. Raison pour laquelle je vous propose sans plus attendre de l'écouter. Voici donc Maldon sur RDL à 19h33. C'est parti. ce célèbre Maldon, qu'est-ce que l'on adore cette chanson. Je vois que Anne-Claire s'est levée, elle est debout là maintenant. Elle danse pas encore mais presque, n'est-ce pas?
Oui, voilà, on va dire ça. Elle danse pas encore mais presque.
On va dire ça. Est-ce que tu savais, Anne-Claire, que, attention, gare aux reprises de Maldon, puisque un autre trio féminin, dont Louisie Joseph a connu un beau succès en 2013, lorsqu'elle a repris pour Tropical Family, il y a eu un très très grand succès. Alors attention, Christiane Obidol qui rechante ce tube dans les tournées Star à 80 actuellement, qui fait un carton. D'ailleurs, il y avait Star 80 qui a été rediffusé sur France 2 pour la nouvelle année, tu sais, entre le 31 décembre et le 1er janvier à X heures du matin. Ça fait toujours son effet, quel que soit le moment de l'année. Franchement, c'est juste magnifique, y compris Maldon, y compris Zouk Machine.
Oui.
Tu aimes bien, toi, cette
chanson?
Moi, j'aime
bien. Oui, ça me plaît. C'est très entraînant, ça permet aussi de déconnecter et ça fait partie de ma playlist ménage.
C'est ce que j'allais dire, parce que dans un instant, il y a ta routine ménage. Attention, en exclusivité mondiale, on va connaître la routine ménage d'Anne-Claire.
Croyez-moi, je la détire depuis des années, ça fait ma renommée.
Eh ben, on verra ça dans quelques instants, parce qu'en attendant, eh bien, c'est un auditeur, je crois même que c'est une auditrice d'ailleurs, qui t'a posé une question aujourd'hui. Voici, sans plus attendre, la question des auditeurs. Alors, cette question des auditeurs, merci beaucoup à Raphaël de nous la poser. Elle te demande, Raphaël, pourquoi les lettres de l'ordinateur sont-elles placées ainsi? Très bonne question.
Bonjour Raphaël, très chère auditrice, merci beaucoup pour la question. Effectivement, l'histoire du placement des touches sur les machines à écrire remonte à l'invention de la machine à écrire elle-même, bien entendu, qui a été inventée au début du 19e siècle. La première machine à écrire commerciale a été brevetée, attention, en 1868 par Christopher Latham Scholl, Carlos Gliden et Samuel Soule, ou Soule, je ne sais pas comment on le prononce.
Ressort, je pense, si ce sont des Américains.
Peut-être, effectivement.
Tu ne l'auras pas demandé.
Non, écoute, je n'ai pas appelé pour savoir.
Ah bon, d'accord.
Alors, il faut savoir qu'elle avait une disposition de touches différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La première machine à écrire de Scholl avait une disposition de touches alphabétiques simples, similaire à celle que l'on trouve sur un clavier d'ordinateur actuel. Cependant, cette disposition a rapidement posé des problèmes, car les barres de type ont tendance à se coincer les unes aux autres lorsqu'elles sont frappées simultanément. Pour résoudre ce problème, Scholl a commencé à expérimenter différentes dispositions de touches. En 1872, Scholl a breveté une nouvelle disposition de touches appelée typewriter, machine à écrire en anglais, qui a placé les lettres les plus couramment utilisées dans des positions éloignées les unes des autres pour éviter les blocages.
C'était juste un beau cadeau.
Elle
date aussi de 1990, comme Maldon, d'ailleurs, cette chanson.
Nous avons tous été un jour des Joséphines à taper à la machine ou sur notre clavier.
Ou sur notre smartphone aujourd'hui.
C'est vrai.
Aussi.
Alors, pour reprendre la machine à écrire.
Pourquoi les lettres de l'ordinateur sont-elles placées ainsi? On rappelle la question de Raphaël.
Exactement. Donc, il a breveté une nouvelle disposition de touches en 1872. Et cette disposition comprenait les lettres QWERTY. Q-W-E-R-T-Y, sur la rangée supérieure qui est devenue la disposition de touches standard pour les machines à écrire anglaises et plus tard pour les claviers d'ordinateur. Depuis, des variantes de la disposition QWERTY ont été développées pour les claviers dans d'autres langues, la nôtre AZERTY, et pour les claviers allemands, il s'agit de QWERTZ, Q-W-E-R-T-Z. Voilà l'explication, tout cela remonte à l'Antiquité. Pour nous, l'Antiquité, puisqu'il s'agit de la machine à écrire, bien que moi, j'en ai encore une à la maison.
L'Antiquité de la machine, j'allais dire l'Antiquité de l'ordinateur.
Exactement.
J'allais presque dire. Bah, en même temps, il faut appeler un chat aussi. C'est vrai ça. Que le QWERTZ, ça fait très allemand avec le TZ à la fin, donc effectivement, je pense
C'est les touches les plus utilisées dans la langue. Chez nous, c'est le AZERTY.
Ouais,
et chez eux, c'est le QWERTY. Voilà l'explication.
Bon, même si le Z, on l'utilise assez rarement, à part quand on vous voit quelqu'un. Vous voyez avec un Z à la fin, mais sinon on l'utilise assez rarement. Ou zèbre, ou zoo.
On l'utilise rarement, mais la touche est aussi placée là, parce qu'à l'époque, sûrement qu'entre le A et le E, il fallait une touche qu'on utilisait moins pour pas que les tablettes se mélangent et pour pas que ça coince.
Ah, c'est sûr que le Z, c'est l'une des lettres les plus inutilisées, mais utiles. La dernière lettre, d'ailleurs, de la langue française, hein, je crois que c'est le W, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une lettre de la fin de l'alphabet, mais ce n'est pas le Z, hein. Ni le Y ni le Z, il me semble que c'est le W. On va vérifier ça pendant qu'on fait le ménage.
Oui, hein. Voilà, on va vérifier ça pendant le ménage.
On remercie également Raphaël pour sa question d'il y a quelques instants. Et puis là, maintenant, tout de suite, c'est un truc et astuce aujourd'hui.
Ouais, mais avant d'enchaîner sur le truc et astuce, on fait un petit coucou à nos auditeurs quand même. On fait un bisou à tous ceux qui nous écoutent. On fait surtout un bisou au Centre Alsace, bien entendu. Un bisou à la Picardie, un bisou dans le sud de la France, un bisou du côté de Paris. Et bien entendu, à tous ceux dans le monde qui nous écoutent et aussi depuis le podcast. Bisous tout le monde, merci beaucoup.
Dans le monde, on est écouté dans le monde.
Oh écoute, j'ai le droit d'y croire. Hein.
T'as raison, allez faisons le ménage.
C'est parti.
Et nous le disions tout à l'heure en exclusivité mondiale, Anne-Claire vous propose sa routine ménage.
Vous rêvez d'un intérieur dont vos hôtes admirent la propreté? Adoptez comme moi ces 4 réflexes simples et rapides au quotidien. Ta maison est tout le temps propre, Anne-Claire. À chaque visite de mes amis, j'entends cette phrase qui me ravit. Je préfère qu'on me complimente sur mon intérieur que sur ma tenue vestimentaire, je dois bien l'avouer. Étant un peu beaucoup maniaque sur les bords, je comprends mieux.
Ah bon?
Pourtant, je suis loin de passer des heures à faire le ménage tous les jours.
Mais alors dis-nous, quelle est ta routine quotidienne pour une maison saine? C'est très poétique, en plus ça rime.
Je travaille comme beaucoup toute la journée, je n'ai donc pas énormément de temps à consacrer aux tâches ménagères au quotidien. Il y a tout de même bien mieux à faire après le travail. Mais j'aime aussi soigner mon intérieur pour m'y sentir bien et alléger ma charge mentale. J'ai donc développé au fil du temps quelques petites techniques pour conserver mon cocon. Chaque jour, par exemple, je passe environ 20 minutes de mon temps à réaliser ces 4 tâches. Ranger derrière moi dès que j'ai utilisé ou sorti quelque chose. Il y a comme ça rarement du bazar. Nettoyer les surfaces, mon plan de travail, ma table à la fin de chaque repas et autres. Nettoyer les ustensiles de cuisine et autres instruments, vêtements, accessoires et autres utilisés dès la tâche terminée avec ceci. Et faire la vaisselle. Je déteste la vaisselle qui s'entasse dans l'évier, mon réflexe. Je la lave dès que le repas est terminé ou dès que j'ai fini de préparer un repas. La touche finale de ma routine, j'adore parfumer mes pièces avec de l'huile essentielle.
Donc, tu te forces à faire la vaisselle ou tu aimes faire la vaisselle quand même?
Non, j'aime pas faire la vaisselle.
Non,
c'est une des tâches ménagères que je déteste le plus.
Ah bah c'est drôle, moi c'est celle que je préfère le plus. Donc, comme quoi, on est complémentaires et on est totalement différents. Mais alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais toutes les semaines que je ne fais probablement pas?
Le programme est en revanche effectivement plus corsé lorsque je m'adonne à mon ménage hebdomadaire, bien souvent le week-end. Je peux même y passer plusieurs heures. Je commence donc par les poussières sur les étagères et les meubles de toutes les pièces. Puis je traite la salle de bain de fond en comble, évier, miroir, douche, armoire et j'en passe. Ainsi que la cuisine, porte de placard, plan de travail, crédence et autres. Je change mes serviettes de toilette, torchons et tout ce qui peut s'apparenter à un essuie-main. Je nettoie les sols, les plantes sous les meubles, les lits, les petits recoins, bien entendu. Tout cela, l'aspirateur et la serpillière, c'est obligatoire.
Pauvre Cendrillon, dès qu'elle peut se reposer, les harpies se mettent à brailler. Cendrillon, Cendrillon,
Cendrillon.
Pourquoi Harpie? C'est pas fini.
Et la preuve, on va pas s'arrêter avec la routine ménage pendant les harpies de Cendrillon, Anne-Claire. Que fais-tu alors tous les 6 mois?
Je m'occupe des menuiseries et petits interstices, pardon, c'est difficile à dire ça, hein, en PVC des fenêtres, rebords de fenêtres, les vitres, les lessives, des voilages, les volets, à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, sinon il me faudrait un petit échafaudage. Je fais également l'intérieur des placards, de la cuisine, de la salle de bain, du dressing, et bien entendu, tous les dessus de placards.
Alors dis-moi, au début de la chronique, tu dis que tu n'avais pas trop le temps avec le boulot et tout pour faire le ménage, mais tu arrives quand même à t'organiser pour faire le ménage toutes les semaines ou la semaine, mais aussi le week-end, tous les 6 mois. Comment tu te motives alors à faire le ménage comme ça ?
Je conçois que le ménage, c'est pas forcément une partie de plaisir. Je le sais, pour moi aussi, c'est carrément la barbe parfois. J'ai donc développé quelques stratégies pour me motiver et transformer ce moment en temps pour moi. Je profite par exemple de ma séance ménage hebdomadaire pour écouter de la musique ou un podcast. Je ne dirais pas qu'il faut écouter 100% Lifestyle sur RDL68.fr ou soundcloud.com, mais bon.
Mais hein, tu l'as dit.
Voilà. Et j'en profite même pour appeler mes proches. Pendant ce temps-là, les tâches avancent, mais en même temps, je donne un petit peu pour moi.
Tu passes du coup à un appel téléphonique pendant que tu passes aspirateur en même temps du
Bah
coup.
Non, parce que là j'entends pas les autres.
Ah, c'est pas ça. On sait jamais, je demande, je sais pas moi.
Non, mais pendant que je fais l'intérieur des placards ou quand je nettoie la salle de bain, des choses qui font pas trop de bruit.
Avec quoi, des écouteurs ou tu mets le haut-parleur?
Non, je mets des écouteurs parce que sinon pour les gens c'est dérangeant, ils entendent le bruit de l'eau et compagnie, c'est chiant.
Ah bah oui, la preuve que tu fais le ménage.
Voilà. Également, je m'en occupe en premier dans le week-end. Si c'est, enfin, quand c'est le ménage hebdomadaire, c'est quelque chose que je fais tout de suite le week-end, si c'est possible, bien entendu, si j'ai rien d'autre de prévu à ce moment-là. Comme ça, je peux profiter de ma fin de semaine sans y penser. Et surtout, je pense à ma charge mentale et je m'offre un long moment de relaxation. Une fois l'effort terminé, je regarde tout. Je m'assois dans le canapé et je dis « Ah, enfin, tout est nickel, c'est bon !»
C'est parti pour une série télé maintenant.
Et puis, je pense surtout à la satisfaction que je vais gagner. C'est un sentiment d'ordre et de propreté qui permet vraiment de mieux se détendre à la maison. Pour moi, ce n'est pas du temps perdu, plutôt du temps bien investi. Et finalement, 20 minutes chaque jour, c'est pas grand-chose pour se sentir bien.
C'est vrai. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour toutes ces très belles astuces de ménage. Maintenant, on n'a plus d'excuses, hélas, j'ai envie de dire, pour faire le ménage ce week-end. Du coup, après ta routine ménage que l'on peut, bien évidemment, comme tu l'as dit, réécouter si jamais on a besoin. Mais oui, qui sait, de réécouter sur soundcloud.com, rdl68.fr et puis la page Facebook aussi, qui sait, pour plein d'autres astuces. On ne sait jamais, il faut rester connecté.
Ah mais oui, il faut rester connecté pour tout vérifier. Et puis, si ça peut vous donner envie en écoutant nos podcast, écoutons, allez-y.
Et puis partagez aussi pour faire connaître au plus grand nombre aussi bien la radio RDL que 100% Lifestyle. C'est vrai ou pas, Anne-Claire?
Mais de toute façon, il faut partager toutes ces bonnes énergies, toutes ces connaissances, parce qu'on ne peut pas garder ça que pour soi.
Effectivement. Et c'est vrai ou pas, Anne-Claire, qu'on va écouter une chanson là maintenant tout de suite, avant ta chronique préférée?
Ah bon?
Oui.
C'est
oui.
Nécessaire.
Oui, et tu sais même comment elle s'appelle cette chanson?
Je crois que ça s'appelle « C'est vrai ou pas ».
Exactement, c'est beau quand même. Voici Alan, tout de suite sur RDL. À tout de suite.
On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Quand on aime, on saigne, nous c'est à l'excès, ça nous a blessés. Plus le temps passait, plus notre étincelle était menacée. Tout recommencer, comment faire le cœur offensé? Nous on est de ceux qui se disent assez quand le mal est fait. On continue de se voir sans se dire ce qu'on est. T'y crois encore mais la fin moi je la connais. J'y crois aussi mais la flamme n'est plus ce qu'elle était. Je me demande si ce qu'on avait était si vrai. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd, mais nous deux, c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi, on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi, on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd, mais nous deux, c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. On s'est dit, c'est mort, faut tirer un trait. On verra ce qu'on fera. Un jour, crois-moi, on sera prêt. Pour l'instant, c'est mieux qu'on reste à l'arrêt. J'ai
mal on s'en faisait. On veut s'oublier, mais nos âmes étaient si liées. Retourner le sablier, revenir comme hier quand nos yeux brillaient. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd, mais nous deux, c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd, mais nous deux, c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi on est quoi?
Mais c'est vrai ou pas qu'on est sur RDL, le 103.5 FM pour 100% Lifestyle, toujours avec Anne-Claire. Merci beaucoup d'être restée avec nous. Voici venu le temps, très cher collègue, ami, de venir à ta chronique préférée, je crois.
Voici venir le temps du piégeon doux.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir comme chaque semaine avec d'abord un rappel rapide des règles.
Alors, une minute chacun pour poser pour répondre à la question de l'autre, c'est mieux. Pendant cette minute, bien entendu, nous ne nous aidons pas parce que c'est le but, c'est que l'autre ne trouve pas.
On peut quand même.
Oui, mais le but, c'est que tu ne trouves pas, donc moi, je ne t'aide pas.
Non, le but, c'est que tu ne trouves pas et que moi, je trouve. Et puis, vu que je n'ai jamais trouvé, bah, du coup, je crois que ça va être encore très compliqué cette
semaine. Ce soir, c'est toi qui commence, hein.
C'est moi qui commence ?
Oui, c'est toi.
Alors, tu penses que... C'est quoi ton thème à toi dans
quelques
instants ?
Moi, écoute, tu m'as encore trouvé un truc de géographie, je suis sûr.
Ah bah oui, je te confirme, mais j'ai quand même envie d'avoir ton thème à toi. En même temps, chose promise, chose due, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière.
Hein. Mon thème à moi ?
Oui.
C'est d'actualité.
Ah bah c'est bien, tiens. Je vais pouvoir regarder sur les différents journaux.
Exactement.
Alors ma question, qui sait, hein, elle est toute simple. Elle dure pas 3 heures, mine de rien, mes questions. De quelle ville les Hiérosolomitains sont-ils, les habitants ?
Hiérosolomitains ?
Oui.
C'est en Europe ?
Non, parce que oui, ça existe.
Océanie, Asie ?
Bah sur Mars, sur Pluton, tant que tu es.
Mais dis-moi un continent quand même.
Répète les continents.
Océanie, Asie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud.
J'ai failli dire tout à l'heure, tu ne l'as pas cité, mais si, c'est l'Asie.
L'Asie ?
Oui.
Rappelle-moi le nom.
Hiérosolomitain. On cherche une ville. Hein.
Les Solomites.
Non, non, sinon je ne l'aurais pas posé.
Hiérosolomitain.
La question, c'est pas de quelle ville les Parisiens sont-ils, les habitants. Hein.
Paris.
Bah non, enfin si, pour ça. Bah alors, les Hiérosolomitains.
Je sais pas, écoute, la minute est passée à mon avis.
Presque, il te reste 10 secondes.
Oui, voilà, donc non, je saurais pas, tu peux donner la réponse.
Une ville en Asie. Bon, tu doutes bien que si je pose la question, c'est qu'il n'y a aucun rapport dans un premier temps avec. Voilà.
Alors, ça me fait penser aux hiéroglyphes, Hiérosolomitains.
Et les hiéroglyphes, ce serait où? Dans quel pays alors?
Mésopotamie.
Non, ça c'est, enfin, ça c'est l'ancien, mais c'est l'ancien nom. Hein,
ah bah oui,
c'est l'ancien nom de l'Irak ou tout près.
Égypte.
Hein. Alors l'Égypte, c'est les hiéroglyphes, bien tenté, mais non, c'était pas l'Égypte. Je te rappelle, on cherche une ville, hein, accessoirement l'Égypte. Bah, le jour
déjà,
où
j'ai
une
le pays. J'ai peut-être le pays. Je veux dire, en disant l'Égypte, après, il trouvait juste qu'une ville. Écoute, si je trouve déjà un pays, ce sera déjà formidable.
Oui, et ben je te confirme, tu l'as même pas trouvé le pays.
Bon bah voilà.
Donc remballe. Non, non. Non. Si je te dis que la ville où on appelle donc les Hiérosolomitains, ils vivent à Jérusalem.
Ah bon ?
En Israël.
D'accord. Oui. Bah en même temps, hiéroglyphes, naissance de l'écriture. Naissance de l'écriture, c'était en Mésopotamie. On n'est pas trop loin.
Oui, enfin, hiéroglyphes, c'est plutôt l'Égypte. Hein, donc,
oui, je suis d'accord, mais bon, ça quand même,
peu, hein.
C'est quand même par là que ça a commencé l'écriture et c'est pas trop loin. Donc,
Oui, ça a commencé avec la Mésopotamie.
Ouais, mais je sais pas, ça me semble logique finalement.
Ah ouais, c'est pour ça que t'as pas donné la réponse.
Bah non, parce que
je me la pète parce qu'après, je vais me faire défoncer.
Je pouvais pas la trouver, mais du coup, c'est vrai que ça me semble logique. Rappelle-moi le nom,
Hiérosolomitains, ce sont les habitants de Jérusalem.
Jérusalem, uniquement Jérusalem.
Uniquement Jérusalem. Alors, ça s'appelle un gentilé. Les Parisiens, pour les habitants de Paris, les Colmariens pour Colmar, ça s'appelle le gentilé. Le gentilé de Jérusalem, c'est les Hiérosolomitains.
Hiérosolomitains.
Eh oui.
Jérusalem.
C'est bien, on apprend des choses. Aussi bien sur la Mésopotamie que sur l'actualité avec question, tiens.
Je suis impressionné. Allez, c'est parti.
Allez, venge-toi.
Pourquoi faisons-nous des crêpes à la Chandeleur?
Oh, je l'ai su en plus. Oui, d'actualité d'ici deux jours, quoi.
Voilà.
En plus, j'adore ça, les crêpes.
Je sais.
C'est quelque chose par rapport à l'histoire. À l'histoire. La Mésopotamie.
un peu plus près de nous.
Un pays?
Non, pas un pays. Dans
l'époque.
Dans l'époque.
Oui. Je sais pas, 19e siècle.
Ou peut-être.
20e siècle.
Non.
Plus tôt. Enfin, je sais pas, 14e, 15e siècle, en tout cas.
Ouais, j'aurais dit comme ça.
Oui, donc en fait, t'en sais rien, quoi. En fait, tu me poses une question, t'as à peine la réponse,
mais
quoi.
Si,
ou t'as
j'ai
la moitié
réponse.
De la réponse en même temps.
Mais si, j'ai la réponse, mais je connais pas exactement les dates de cette époque.
Ah bah, tu vas me les trouver, tiens, t'as 15 secondes pour me les trouver.
Non, bah, c'est toi qui dois les trouver.
Bah, non, moi, la question, c'est pas ça. Déforme pas le truc.
Bah, deux questions en une, écoute.
Ah bah, écoute, tu peux donner la réponse parce que j'ai même pas le temps de réfléchir, il reste deux secondes.
Tu plies bagage.
Ouais, je donne ma langue au chat.
Oui.
Ah, j'adore les crêpes, j'aime bien les manger, je sais pas d'où ça vient.
Bah,
je sais plus parce que je pense que quand tu vas le dire, ça va me dire quelque chose,
maintenant,
j'en suis sûr.
Tu pourras le savoir quand tu pourras les déguster, tu pourras savoir d'où ça vient.
La Bretagne. Bah oui, en même temps.
Écoute, cette saison, c'est dimanche, et figure-toi que cela remonte au Moyen-Âge. Alors, l'époque du Moyen-Âge, je t'écoute, c'est quel siècle?
Il y a 10 siècles hein, en même temps. Donc,
ah oui, mais entre combien et combien?
Entre le 5-6e siècle jusqu'au 14e siècle.
Ah, tu vois, quand t'as dit 15-14e, j'étais bien.
T'étais bien, mais tu sais pas en vrai précisément dans le Moyen-Âge, donc t'étais bien.
Écoute, en tout cas, c'est à cette époque qu'on croyait que la prospérité de l'année dépendait de la façon dont on cuisinait les crêpes. Car la forme ronde et dorée des crêpes rappelle le disque solaire, symbole de la lumière et le retour du printemps.
Alors des fois, on invente des objets ou des spécialités culinaires, mais alors pour un truc qui n'a strictement rien à voir, ou qui est des années-lumière de
bah, en même temps, tu m'as parlé de la Bretagne, mais la Bretagne, c'est les crêpes de sarrasin, hein, c'est pas les crêpes. Hein.
Oui, c'est vrai que quand on dit crêpes, dans la France, on pense à la Bretagne, on pense pas à l'Alsace.
Eh bien, écoute, hein, tu sauras que ça remonte au Moyen-Âge avec le soleil, le retour du printemps et le symbole de la lumière prospérité.
Et toi, tu sauras que le gentilé de Jérusalem, ce sont les Hiérosolomitains.
Voilà, j'irai coucher moins bête. Et surtout, vous aussi, à mon avis, vous irez coucher moins bête aussi. Merci de nous avoir écoutés sur le 100% Lifestyle RDL 103.5 FM. C'est chaque jeudi de 19h à 20h. Je vous retrouve... vous retrouve la semaine prochaine.
Je suis partie, elle m'a oublié.
Non.
Je n'existe plus.
On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Vous pouvez bien entendu retrouver... le podcast sur soundcloud.com, sur rdl68.fr, également la page Facebook 100% Lifestyle. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bisous mon très cher Yann, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine avec grand plaisir. Porte-toi bien Anne-Claire, et vous aussi chers auditeurs.